va porter ton message aujourd'hui. Nous te demandons de le bénir, de le remplir ton esprit, afin qu'il puisse vraiment transmettre fidèlement ta parole. Donne-nous des cœurs attentifs et dociles, afin que ta parole germe dans nos cœurs et porte des fruits. Amen.
Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, y compris ceux qui se sont couchés à 1h30 ce matin pour voir un match d'anthologie. J'en fais partie. Donc c'est un culte d'été avec une durée un peu raccourcie. Et les enfants sont avec nous. La plupart sont derrière, mais je vois qu'il y en a qui sont là. Donc, Jésim, je vais beaucoup te poser de questions, du coup. Désolé. Et ce sera aussi une prédication raccourcie. C'est une prédication qui va porter sur un seul verset. Voici le verset dont il est question. Voici. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Et lui avec moi. Un verset très connu, hein, sans doute un des plus connus de la Bible. J'avais prévu un petit jeu à faire sur le smartphone, mais on va le faire à l'ancienne en levant la main, pour déjà vous poser la question. À votre avis, qui parle ici? Alors il y a deux possibilités. La première, c'est Jésus. La deuxième, c'est l'apôtre Paul. Alors qui pense que c'est l'apôtre Paul? Qui pense que c'est Jésus? Bon, ça va, c'était une question facile. C'est bien, c'est Jésus qui parle. La deuxième question, à qui s'adresse-t-il? Là, il y a trois possibilités. Interdit d'aller regarder où est le verset, hein, sur son téléphone, sinon c'est trop facile. À qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse, première option, à des Juifs, à la foule qu'il rencontre en Galilée, hein, donc des Juifs? Est-ce qu'il s'adresse à des non-juifs qu'il rencontre à Jérusalem? Ou, troisième possibilité, est-ce qu'il s'adresse à des disciples, à certains de ses disciples? Alors, qui pense qu'il s'adresse à la foule, à des juifs? Non. Qui pense qu'il s'adresse à des non-juifs à Jérusalem? Ouais. Et qui pense qu'il s'adresse à certains de ses disciples? Un peu plus. Ok. Effectivement, il s'adresse à certains de ses disciples. Et dernière question, est-ce que ce verset se trouve, alors il y a quatre possibilités cette fois-ci, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean ou dans l'Apocalypse de Jean? Alors, qui pense que c'est dans l'évangile de Matthieu? Non, personne. Dans l'évangile de Luc? Non plus. Dans l'évangile de Jean? Et dans l'Apocalypse? Oh, bon ben, en fait, vous connaissez votre Bible par cœur, c'est très bien, bravo. Effectivement, c'est un verset qu'on trouve dans les livres de l'Apocalypse, alors que c'est un verset qu'on verrait très bien entre une parabole de Jésus et un miracle, par exemple. Mais c'est dans le livre de l'Apocalypse, qui a été écrit bien longtemps après la mort de Jésus et après sa résurrection et son ascension. C'est un livre qui a été écrit vers l'an 90 de notre ère à peu près. On ne connaît pas la date exacte, mais on estime que c'est à peu près autour de cette période-là, par l'apôtre Jean, qui était en prison sur une île, l'île de Patmos. Et là, Jean a une vision extraordinaire, où il voit Jésus qui lui apparaît, et Jésus va notamment commencer par lui dicter sept lettres destinées à différentes églises. Et ce matin, le verset sur lequel on va un peu méditer, il se trouve dans la dernière de ces lettres, la lettre à l'église de Laodicée. Et on va essayer de voir trois enseignements que l'on peut retirer pour nous de cette lettre. Alors le tableau, on y reviendra. La première, c'est que Jésus s'adresse ici à ses disciples, à des chrétiens. L'église de Laodicée, on pense qu'elle a sans doute été créée dans le mouvement de création d'église de l'apôtre Paul, lorsque Paul était 2 années à Éphèse. Donc l'église avait à peu près une 50aine d'années. Toute ressemblance Voilà. L'église de Laodicée a à peu près une cinquantaine d'années. Il ne s'adresse pas à des juifs, il ne s'adresse pas à des païens, mais il s'adresse bien à ses disciples. Or, c'est souvent un verset que l'on va penser comme étant concernant la conversion individuelle, comme s'adressant à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui sont éloignées de la foi. Effectivement, l'idée d'ouvrir son cœur, de laisser Jésus entrer, c'est une belle image du fait de devenir disciple de Jésus. Hein. Mais on voit ici, dans le texte d'Apocalypse 3, que ce n'est pas le contexte de départ. Le contexte de départ, c'est Jésus parle à des gens qui sont déjà chrétiens. Il parle déjà à ses disciples. Et ses disciples ne sont pas isolés, mais ils font partie d'une église, d'une communauté, l'église de Laodicée. Donc ce n'est pas un projet de conversion individuelle, mais c'est un projet de revitalisation collective pour l'église de Laodicée. Parce que cette église de Laodicée, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien du tout même. Jésus lui fait des reproches. Écoutons ce qu'il lui dit au verset 17. « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Jésus fait des reproches à l'église de Laodicée. Il l'appelle à une prise de conscience, à un sursaut. Il utilise des images choc juste au verset d'avant. Il dit « Je vais te vomir de ma bouche parce que tu as perdu ta vocation, tu as perdu ton sel, tu as perdu ta saveur, tu as perdu ton utilité. » Mais Jésus ne se contente pas de faire des reproches, il propose aussi des solutions. Au verset 18, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Jésus souhaite que l'église de Laodicée prenne conscience de sa situation. Il y a un besoin de changement, un besoin de repentance. Et c'est le premier enseignement que je vous propose ce matin, c'est de nous rappeler que cette invitation à ouvrir la porte à Jésus, elle n'est pas réservée à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est une invitation qui s'adresse aux disciples de Jésus, à chacune, à chacun de nous. Et tout particulièrement à celles et ceux qui ressentent dans leur vie un besoin de changement, qui ont conscience que dans leur vie, dans leur comportement, dans leurs relations, dans différents aspects, il y a un besoin de changement. Jésus propose une solution, il offre ses bénédictions, qui sont ici imagées par des vêtements, par un collier qu'on va mettre dans l'œil, par de l'or. Et cette prise de conscience, elle peut être douloureuse, mais elle est fondée sur l'amour. Au verset 19, Jésus continue. « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. » Voici l'encouragement qui est donné à l'église de Laodicée. Et juste après ce rappel de l'amour, on trouve le verset de ce matin. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Donc première chose, ne pas mettre de côté ce verset en se disant « Oui, bon, moi c'est bon, j'ai déjà ouvert la porte. » Non, non, ça, on peut être concerné aussi par ce verset. Après la prise de conscience, vient l'ouverture de la porte. Alors, on comprend que c'est une image, la porte. Qu'est-ce que c'est une image qui voilà, Jésus, il toque, mais ça veut dire quoi en fait? Jésus frappe à la porte. Il frappe à quelle porte? Notre cœur, notre vie, toute notre personne en fait. Il veut pouvoir entrer en nous, être en communion avec nous. Et Jésus, une porte, elle peut avoir combien de positions différentes? Combien? Deux? Ouais. Alors les deux principales, c'est quoi? Une porte, on peut la fermer, Elle peut être fermée ou elle peut être ouverte. Même quand elle est entrouverte, elle est quand même ouverte. Je me citais un petit peu. Une porte peut être ouverte ou fermée. Et qui est-ce qui, dans ce verset, ouvre la porte ? C'est le disciple. Ouais. Jésus, il est présent devant la porte, il frappe, mais Jésus ne force pas le passage. Jésus ne défonce pas la porte en disant « T'as besoin de moi, j'arrive ». Non. Il y a un tableau qui est assez connu, notamment en Angleterre. Oups, on revient en arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est une illustration en fait d'un tableau du 19e siècle qui illustre ce verset. On voit Jésus, c'est la nuit, il est devant une porte, il tient une lanterne et il est en train de frapper à la porte. Et la particularité de cette porte, c'est qu'elle n'a pas de poignée à l'extérieur. Jésus, il frappe, mais il va pas ouvrir la porte. Dans ce verset, celui qui ouvre la porte, c'est le disciple. Et souvent, Jésus ne retient pas ses bénédictions. Souvent, c'est de notre côté que la porte est fermée. Jésus peut frapper à notre porte par beaucoup de manières différentes. Par des événements, par un texte biblique. Peut-être que ce matin, il a frappé à votre porte, à la porte de votre cœur, par une discussion, par une dispute avec son conjoint, par les paroles d'un chant, une pensée inspirée par l'Esprit. Jésus frappe à notre porte de plein de manières différentes. Et peut-être que la période de l'été, où le rythme des activités est censé diminuer un peu, nous permet peut-être d'entendre un peu mieux les coups qui sont frappés sur notre porte. Parfois, le bruit ambiant nous empêche d'entendre ça. Et c'est ma prière, en tout cas, qu'on puisse se mettre à l'écoute de savoir si Jésus frappe à la porte de notre cœur. C'est ça le second enseignement que je voulais voir avec vous ce matin. Jésus ne va pas te forcer la main pour ouvrir ton cœur. Il se manifeste et il attend une réponse de notre part. Et quand on ouvre la porte, que se passe-t-il ? Jésus, il vient, il entre, il s'assoit. Et il mange avec nous. Il vient s'asseoir à notre table. C'est à la fois une image qui est, pour moi, quand je m'imagine cette scène, pleine de douceur et de communion profonde. Dans la culture juive, dans la culture de Jésus, dans la culture de Jean, de Paul, manger avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. S'asseoir avec quelqu'un pour manger, pour partager le repas avec lui, ça veut dire que l'on s'intéresse à cette personne. Ça veut dire que l'on va s'associer avec cette personne. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel scandale lorsque Jésus a mangé chez des pharisiens, chez des publicains, c'est-à-dire chez les collecteurs d'impôts, chez Zachée, chez Lévi? C'est parce qu'il s'associait d'une certaine manière avec ces personnes-là. Jésus avait de l'intérêt pour les personnes avec lesquelles il mangeait, il entrait dans leur intimité. Nos vies ne sont pas parfaites, mais Jésus souhaite s'asseoir avec nous, à la table de notre cœur. Il veut partager nos préoccupations, nos joies, nos difficultés, nos défis, nos victoires, nos manquements. Et c'est ça le troisième enseignement, ouvrir la porte, laisser Jésus entrer dans nos vies, dans notre cœur, c'est prendre soin de notre relation avec Dieu. Et c'est la condition pour que le changement dont on a besoin puisse débuter. Un verset qui s'adresse à chacun de nous. Jésus qui est présent mais qui ne va pas forcer le passage dans notre cœur. Mais lorsque nous lui ouvrons, alors une communion profonde peut avoir lieu. Et une communion qui vient changer notre vie. L'église de Laodicée, ce que disait Jésus, elle avait à sa disposition tout ce dont elle avait besoin. Viens chez moi, acheter de l'or, acheter des vêtements, acheter ce collier. Mais Jésus ne lui force pas la main, ne l'oblige pas à s'en saisir. Chacun des membres de cette église devait ouvrir la porte à Jésus pour que la communion puisse reprendre toute son ampleur, puisse se rétablir et que Jésus puisse travailler en eux. Ce que Jésus nous propose, c'est une dépendance quotidienne de ses bénédictions. On lui ouvre notre cœur, il entre en nous. Jésus nous transforme. Il ne nous transforme pas juste pour un petit moment, mais dans une perspective éternelle. Voici la fin de la lettre à l'église de Laodicée. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi, sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Comme on est loin de l'image de départ de cette église qui est vomie de la bouche de Jésus, de cette église qui se fait des illusions sur elle-même. Voilà ce que Jésus promet à ceux qui le suivent, de régner avec lui. Ma prière, c'est que chacun, chacune de nous, on puisse ouvrir la porte de notre cœur à Jésus, quel que soit le changement dont on a besoin, quelle que soit notre situation, quelle que soit la manière dont Jésus frappe à la porte de notre cœur, écoutons et laissons Jésus entrer. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, tu te soucies de chacun de nous, de chacun de tes enfants. Tu es attristé lorsque nous nous faisons des illusions sur nous-mêmes, lorsque nous pensons pouvoir nous en sortir avec notre propre sagesse, nos propres forces. Tu te tiens là, en nous, par ton Esprit Saint, et tu souhaites que nous soyons en communion avec toi. Et pour cela, il y a cette image de la porte qui peut nous frapper, qui peut nous parler. Oui, tu attends que nous ouvrions la porte de notre cœur, de notre vie, chaque jour, à ton action, à ta présence. Père, ce matin, tu frappes sans doute, tu frappes peut-être à la porte de notre cœur, que nous soyons réceptifs à ces coups que nous entendons, qui ne sont pas des coups brutaux, mais qui sont des coups pleins d'amour, parce que c'est, comme tu le redis dans cette lettre, c'est par ton amour, par amour que tu veux reprendre et que tu veux vivre en communion avec tes enfants. Merci parce que tu es puissant pour œuvrer dans nos vies, pour travailler dans nos cœurs, pour nous transformer à ton image. Amen.